Monde Afrique.
RFI. Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot. Il est manifestement difficile d'aller loin et à la Coupe du Monde en juillet et en Ligue des Nations en novembre. La nouvelle compétition lancée par l'UEFA a livré son premier verdict pour les demi-finales de juin prochain. Le Portugal y sera en compagnie de la Suisse, de l'Angleterre et des Pays-Bas, auteur d'une fin de match épatante ce lundi soir contre l'Allemagne. Le résultat bout la France championne du monde en dehors du tournoi. Et le résultat laisse l'Allemagne aussi finir l'année avec ses doutes et ses interrogations. Pour en parler avec nous, Hervé Penaud, notre confrère de l'équipe.
Hervé Penaud, je viens de le dire.
Bonjour, oh, Hervé. Bonjour à vous tous. Heureusement, hein, sinon j'allais mal le prendre. Hein.
Salim Bongali de RMC Sport. Bonjour Salim.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. C'est Hervé Penaud quand même. Oh, c'est pas n'importe qui, c'est Hervé Penaud.
Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Bon, je suis présenté comme ça.
Il est là en vrai.
Merci,
hein. Voilà. Et Hugo Moissonnier est là également.
Bonjour, c'est Hugo. Hugo Moissonnier.
On se l'arrache. Ah, il est à nous.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Au sommaire également, les éliminatoires de la CAN 2019. Deuxième épisode d'un feuilleton commencé hier. Aujourd'hui, nous revenons sur les qualifications de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Nigeria et de l'Ouganda. Ça va être chaud en revanche pour pas mal de pays, parmi lesquels le Burkina Faso, la RDC ou encore le Congo-Brazzaville. Tout ce petit monde a rendez-vous en mars pour la sixième et dernière journée. Et puis ça paraît loin, mais ça va venir vite. Dans 12 ans, la Coupe du Monde 2030. En tout cas, le Maroc y pense déjà en tant que candidat à l'organisation. Encore une fois, la nouveauté dans ce dossier, c'est que l'Espagne propose une candidature commune avec les Marocains et les Portugais. Radio Foot préparé avec David Finzel et Laurent Salerno. Nous sommes ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel.
Vier en halve minuut zo'n beetje met Van Dijk die verlengt. Vilena naar zijn linkerbeen toe. Onmiddellijk voorzetten. Ja, natuurlijk. En de kans en de goal. Ja! Virgil van Dijk maakt die 2-2. Virgil van Dijk, de aanvoerder met een belangrijke goal zeg.
De partout, c'est le score final de ce match disputé à Gelsenkirchen entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Et vous avez entendu le commentaire dans cette délicieuse langue sur le but
délicieuse
sur le but de Van Dijk. C'est comme ça que l'on prononce. Alors d'abord, on va parler de cette équipe d'Allemagne, si vous voulez bien, parce que on l'a vu. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. D'abord séduisante, menée 2-0 avant de se faire rejoindre. Séduisante d'abord, hein, Salim.
Ah clairement, la manière d'attaquer, notamment avec les trois devant qui ont embêté pas qu'un peu la défense néerlandaise. Leroy Sané qui a été brillant dans cette rencontre, lui qui était, vous savez, un peu mis de côté par Joachim Löw il y a encore quelques mois. On se disait comment il allait faire pour revenir en sélection. Finalement, le sélectionneur l'a rappelé et il a été efficace, hein. Même si l'Allemagne est déboutée de cette Ligue A et va être reléguée en Ligue B, eh bien lui, c'est l'une des rares satisfactions de cette équipe allemande. Donc oui, l'Allemagne a été vraiment intéressante en première période, notamment avec ses buts marqués. Timo Werner qui est pourtant une pépite en attaque, c'est son premier but hier dans cette compétition. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont répondu présent hier, donc on se disait à 2-0, vraiment une équipe séduisante, et puis tout d'un coup, en fin de rencontre, donc c'est Pays-Bas qui ont réussi, mais c'est bizarre quand même, parce que cette équipe d'Allemagne, pendant 85 minutes, elle a été bonne, elle doit marquer un troisième but, elle doit même marquer un quatrième but, et il y a eu des opportunités, c'est presque bizarre de ne pas réussir à s'imposer hier.
Leroy Sané, c'est votre top player, on peut utiliser un anglicisme
et moi, sur, de les la derniers, ouais, bah, sur les derniers matchs, moi, celui que j'ai bien aimé, c'est quand même Werner. Parce que je trouve que c'est vraiment un joueur...
Y compris hier ?
Non, hier c'est un petit peu différent, mais je parle sur l'ensemble. Parce que là on parle un petit peu de cette reconstruction d'équipe d'Allemagne. Parce que quand ils sont complètement plantés après la Coupe du Monde...
On y vient tout doucement.
On a bien vu qu'aujourd'hui, il y avait une forme de nouvelle équipe d'Allemagne, avec trois joueurs offensifs qui vont très vite. Ils jouent sur leur vitesse de leurs joueurs. Et Werner, dans ces cas-là, est quelqu'un, je trouve, de très intéressant. Il provoque, il est capable d'éliminer, il est capable de marquer. Il marque hier quand même, mais c'est vrai que le Leroy Sané, qui... faut quand même le dire, le bon Leroy Sané, de temps en temps, on faisait un petit peu trop. Il avait tendance à vouloir toujours surjouer et puis montrer qu'il avait sa place. C'est pour ça un peu qu'il a oublié, je pense, de la Coupe du Monde. C'est qu'à un moment, l'OS dit, est-ce que ça a fonctionné sur un mois? Est-ce qu'il va pouvoir se fondre dans ce collectif? Et donc, à un moment, quand vous faites des choix, vous êtes avec une équipe qui avait tout gagné précédemment, donc vous dites, allez, c'est possible, on peut le laisser de côté. Non, il fallait peut-être pas le laisser de côté. Ça aurait pu être un atout supplémentaire pour cette équipe d'Allemagne. N'empêche que Joachim Löw, après un début de Ligue des Nations difficile, faut pas l'oublier quand même, il a réussi à trouver une nouvelle structure d'équipe. C'est là où ça devient intéressant pour l'équipe d'Allemagne. Alors, grosse déception pour eux de pas avoir gagné, je pense. Parce que quand vous prenez deux buts dans les dernières minutes, vous êtes
toujours à la sensation. Même s'ils étaient déjà éliminés, ouais.
Éliminés ou pas, je pense qu'ils auraient aimé terminer, surtout contre les Pays-Bas, voilà. Qui est pas mal adversaire un petit peu à part. Exactement. Pour eux. On aime bien terminer par une victoire. Mais n'empêche que pour Joachim Löw, ce match-là, comme le précédent, ce sont des matchs qui ont permis quand même de mettre en lumière la capacité du football allemand à pouvoir se régénérer dans un système différent, dans une manière de jouer différente. Lui-même l'avait dit, hein, le Joachim Löw, il avait dit, avec la victoire de l'équipe de France, on se rend compte qu'il y a un jeu de possession, c'est peut-être plus exactement ce qu'il faut. Il faut être capable d'avoir de la transition rapide, de la vitesse vers l'avant. Et là, aujourd'hui, ils ont ça devant. Par exemple, en faisant jouer un Gnabry, c'est quand même quelque chose, c'est un choix fort, voilà. qui n'était pas titulaire tout le temps au Bayern, hein, il faut pas l'oublier. Hein. Donc, c'est une autre manière d'appréhender le football allemand et je trouve que c'est une belle régénérescence. C'est un peu comme Penaud. J'ai régénérescence du football allemand.
Comment a-t-elle pu craquer comme ça, cette équipe d'Allemagne, alors qu'elle avait, j'ai envie de dire, presque un peu comme la Belgique la veille, toutes les cartes en main pour obtenir en tout cas un résultat?
Ce qui est terrible, c'est que quand même, à 2-0, il y a notamment un changement dans cette équipe avec l'entrée de Thomas Müller. Tiens, on parlait de régénérescence il y a quelques instants et Hervé évoquait ce terme. C'est vrai que lui, Thomas Müller, fait partie de l'ancienne génération, alors qu'il est encore...
C'est un centenaire en termes de sélection.
Ça. Exactement, alors qu'il est encore présent, mais il est évidemment plus proche de la fin de sa carrière que du début. Et alors, je vais évidemment pas me focaliser sur lui, c'est pas de sa faute si évidemment il y a deux buts concédés.
Mais quand même.
Mais comme par hasard, c'est un fait. Comme par hasard, il entre, oui. Et il y a 2-0 et après il y a 2-2.
Et comme par hasard, c'est qu'on a sorti les trois offensifs. Exactement. Qui avaient une certaine manière de jouer, un certain style de jeu et aussi une peur qui existait un petit peu, qui planait autour de la défense des Pays-Bas. Ce qui a permis d'ailleurs aux défenseurs de monter beaucoup plus avant de finir devant, etc. Mais c'est vrai que ces choix-là sont importants et Müller, c'est le grand perdant quand même de l'affaire. Parce que Müller, depuis le début, enfin c'est pas d'aujourd'hui, hein. Les talons quand il était en Coupe du Monde, il marchait sur les talons avant, on se disait à quel moment on va le changer. Là, on lui relaisse sa chance, 2-0. Et ils disent, bon, bah là, dans ces cas-là, allez, logiquement, ça devrait tenir, il n'y a plus de problème. Et puis finalement, avec Müller, et puis avec les autres entrants, ben, ça n'a pas fonctionné. Donc lui, pour moi, est le grand perdant, quand même,
de cette. Ouais, que ce soit avec l'équipe d'Allemagne et même au Bayern. Bayern est plus titulaire désormais. C'est vrai que Thomas Müller, clairement, Joachim Löw aura une nouvelle sélection à faire au printemps prochain. Lui, sans doute, fera peut-être, en tout cas, partie de cette liste d'absents, désormais, ouais. Thomas Müller.
Sans sélection, il avait...
Ouais, alors, certes, Joachim Löw, il essaye, de garder, encore une fois, certains noms.
Il est intouchable, Thomas Müller. On l'a tellement aimé, mais là, c'est vrai que les deux premiers ballons hier qu'il touche, il en fait de mauvaises choses.
Oui, mais à la base, il est intouchable, effectivement. Mais Joachim Löw, encore une fois, lui-même, déjà, il est quand même en sursis, même si, au final, cette fin de Ligue des Nations a peut-être démontré que Joachim Löw va sans doute rester à sa place, oui. Parce qu'il a réussi justement à intégrer certains joueurs, à rappeler Leroy Sané notamment. Mais Thomas Müller, il va falloir faire des choix et peut-être que lui, à partir du printemps, il ne sera plus là.
Non mais il y a une forme d'intouchable, excuse-moi.
Non, mais je vous trouve quand même un petit peu sympa quoi avec Joachim Löw. On en reparle après.
D'accord, mais il y a un côté intouchable quand même effectivement avec Müller, mais c'est parce qu'il y a deux manières de voir le football. Alors les gens qui nous écoutent, ils le voient en spectateur, nous on le voit en acteur, mais en tant que journaliste. Et puis il y a les entraîneurs. Et les entraîneurs généralement ont beaucoup de mal à se passer des joueurs qu'ils ont considérés comme des cadres, sur lesquels ils se sont appuyés. C'est l'histoire du football. Tous les entraîneurs sont passés par là. C'est Didier Deschamps qui gagne la Coupe du Monde et qui a envie d'aller un petit peu plus loin avec ses gars. Ça a été pareil avec Le Maire, ça a été pareil mais avec tout le monde, avec tous les entraîneurs ont fonctionné comme ça. Jacques Santini qui pouvait pas laisser passer les deux saillies, etc., qui ont été tellement immenses pour le football français. Parce qu'à un moment, un entraîneur, il est obligé de se dire, ah, il va quand même encore pouvoir me sortir quelque chose. C'est un cadre, c'est quelqu'un sur lequel je vais m'appuyer, je vais pouvoir parler, il va pouvoir faire le lien entre les jeunes et les anciens. Puis à un moment, ça devient vraiment trop dur. Et je pense qu'on est pas très loin de ça avec Müller pour l'instant.
Ouais, c'est une question de reconnaissance de tout l'apport qui a été fait, effectivement, ce que le joueur chevronné, expérimenté, pourrait encore apporter à cette sélection. Vous trouvez, vous, Hugo, qu'on est un peu indulgent avec Joachim Löw, c'est après tout lui qui décide de faire entrer ou pas tel ou tel joueur.
Exactement. Et déjà, je vous trouve un peu dur avec Thomas Müller qui, est un guerrier, hein, pour utiliser un terme qui n'est pas trop adapté
si vous
au monde du football, mais qui en tout cas a déjà fait montre au cours de sa carrière d'une force mentale qui n'est pas forcément encore celle d'un Timo Werner qui lui sort quand on le siffle un peu trop de manière trop véhémente à Istanbul en Coupe d'Europe, c'était l'an passé. Ils sont encore jeunes, elle est encore jeune cette triplette d'attaque, un peu plus de 22 ans de moyenne d'âge. Quant à Joachim Löw, alors peut-être est-il en train de rectifier le tir, mais enfin 6 défaites sur 13 en 2018, c'est pratiquement un match perdu sur 2, aucune victoire sur les 5 dernières rencontres de compétition disputées par l'Allemagne, si j'en crois ce que j'ai lu dans le journal L'Équipe.
Donc c'est que c'est vrai. Si c'est dans L'Équipe, c'est vrai.
C'est la pire série depuis 40 ans, alors c'est quand même un bilan assez catastrophique dans un pays qui est habitué à gagner à la fin, si j'en crois une expression célèbre. Et puis il y a un autre chantier qui est pas que footballistique, encore que il faut donner envie au public allemand qui normalement le fait spontanément de revenir dans les travées des stades dans lesquels joue la Mannschaft, puisqu'il y a quelques jours contre la Russie à Leipzig, on aurait pu accueillir 8000 spectateurs de plus. Alors nous de France, on envie souvent ces stades allemands. Absolument. Toujours plein, et là c'est plutôt clairsemé, c'était encore clairsemé hier à Gelsenkirchen.
Après bon, le Allemagne-Russie était un match amical tout de même, même si hier effectivement ça reste à Amelm-Pays-Bas, on l'a dit, le contexte reste particulier
avec
entre les deux équipes,
de rivalité et, footballistique et régionale,
et c'est le cas. Et là pour le coup effectivement c'est plus surprenant quand même d'avoir un stade pas totalement plein. Après vous avez une équipe qui est déjà éliminée, ben inconsciemment vous allez peut-être moins la suivre. Inconsciemment elle est déjà éliminée, vous avez tout simplement la regarder à la télévision. Donc oui, Joachim Löw doit recréer, on va dire, ce lien entre équipe et supporters. Mais j'insiste, sur ces derniers matchs on a quand même vu du mieux. Alors c'est loin d'être parfait et l'équipe d'Allemagne se doit d'être au top niveau, on peut pas se dire simplement il y a du mieux, c'est un fait. Mais encore une fois aussi, si vous parlez de Joachim Löw, alors à un moment donné son nom était évoqué pour être évincé, mais qui pour le remplacer aujourd'hui en Allemagne? Il y a quelques noms qui sont évoqués, alors Klinsmann est celui qui est assez souvent évoqué, sauf qu'aujourd'hui il est très bien là où il est. Aujourd'hui vous avez Bierhoff qui reste sur le banc, mais pourrait-il prendre lui ce poste de Joachim Löw,
une sorte de manager qui est même manager,
qui est manager de l'équipe d'Allemagne en l'occurrence?
Un jour ou l'autre.
Sur un coup de tête, peut-être.
C'est ça. Et puis sinon, d'autres noms qui sont évoqués, mais ils sont beaucoup trop jeunes. Nagelsmann, qui est aujourd'hui à Hoffenheim.
Mais il veut pas.
C'est un nom qui est évoqué, mais il est beaucoup trop jeune.
Et
il est très bien.
On l'a
signé à Leipzig. Son club où il est aujourd'hui. Donc il n'y a pas de nom forcément pour remplacer Joachim Löw.
Alors on laisse les Allemands réfléchir et on se tourne vers les vainqueurs. Enfin, oui, parce que même s'ils n'ont fait que match nul, ils ont arraché ce match nul. Eh bien, ce sont eux qui sont qualifiés, les Pays-Bas, pour cette fameuse finale à 4 du mois de juin prochain. Avec un Virgil van Dijk décisif après la réduction du score de Koeman, Babel.
De promesse.
Eh bien, Koeman, le sélectionneur, paraît-il, a fait passer un petit morceau de papier sur lequel il avait griffonné le nouveau système de jeu. Hein, et il l'a fait passer à Van Dijk, son capitaine. Changement de système pour les dernières minutes. On a vu sur les réseaux sociaux ce morceau de papier où Van Dijk était devant. À quelle logique ça répond d'ailleurs d'envoyer le défenseur, le taulier de la défense devant pour les dernières minutes?
C'est très logique. Moi souvent quand je vois des matchs, je me dis toujours mais envoyez les meilleurs joueurs de tête devant. De toute façon, à un moment quand ça peut plus passer, il reste plus qu'une minute. Allez, vulgairement, on dit balancer dans le paquet. Alors, c'est vrai qu'il y a des entraîneurs qui sont pas adeptes de ça. Hein. Vous allez jamais faire ça à Sarri. Sarri va pas se dire, non, vous êtes fou. C'est pas question. On tentera de passer avec le jeu. Mais, à un moment, quand vous êtes capable de le faire, vous avez un joueur de tête comme ça. On sait jamais. Et la preuve.
Et la preuve, il a marqué du pied. Oui. On va écouter.
D'ailleurs, une demi-volée exceptionnelle. Hein, c'était un but de numéro 9, celui qui a marqué hier.
Quand je dis ça, c'est que vous mettez des joueurs costauds devant pour essayer de récupérer des ballons de la tête. Après, des deuxièmes ballons, etc., etc., évidemment.
On écoute la réaction du sélectionneur Ronald Koeman.
Nobody expected.
Personne ne pensait que nous allions terminer premier du groupe. Nous avons produit un bon football. Ce n'était peut-être pas notre meilleure performance, mais nous avons pris un point. Je me souviens qu'aux Pays-Bas, les gens disaient « Ce sont toujours les Allemands qui marquent à la dernière minute. Il faut maintenant comprendre que nous avons été l'équipe la plus chanceuse. »
It was Holland who was the most luckiest.
Voilà, Ronald Koeman, qui a réussi son pari, parce que il est en train de relancer cette équipe des Pays-Bas qui était bien mal en point, qui a raté et le dernier Euro et la dernière Coupe du Monde.
C'est ça, avec une équipe des Pays-Bas relativement jeune, hein, quand on le voit sur papier. On évoquait Virgil van Dijk, mais toujours Quincy Promes, De Ligt et De Jong, pardon, et le défenseur central et le milieu de terrain de l'Ajax. D'ailleurs, quand l'Ajax les vendra ces deux joueurs, il y aura beaucoup d'argent. Hein. L'Ajax récupérera beaucoup d'argent. City, notamment, est à fond sur De Jong, hein, le milieu de terrain. Mm-hmm. Selon certains titres de la presse anglaise, 65 millions d'euros auraient été proposés ainsi à l'Ajax pour s'attacher à les services du milieu de terrain. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de milieu de terrain à City, on le sait bien. Et puis, quand vous avez devant Memphis Depay, vous avez un leader d'attaque, alors qu'il n'est peut-être pas le leader d'attaque ou l'un des grands attaquants qu'on a pu connaître à la grande époque des Pays-Bas, Devon Nistelrooy, Devon Persie, etc. Mais bon, cette équipe est en train de s'upgrader petit à petit, et on se dit que dans deux ans pour l'Euro 2020, voire pour la Coupe du Monde 2022, ça peut donner quelque chose d'intéressant.
Hervé. Oui, et puis on a l'impression que Memphis Depay, c'est un vieillard dans l'affaire. Oui. Il a 25 ans. Oui. C'est un jeune joueur. Oui. C'est encore un jeune joueur. Et qui n'a pas atteint encore son potentiel, à mon avis, maximum. Parce que c'est un joueur qui est encore inconstant. Alors, il peut peut-être gagner encore un petit peu plus. Il le prouve avec cette équipe de PEA. Mais ce qui est intéressant, et c'est là, ça va être le miroir un peu avec l'Allemagne, c'est qu'on est passé d'une équipe d'Allemagne qui gagnait tout à une équipe des Pays-Bas qui était en grande difficulté, qui ne s'est pas qualifié pour cette Coupe du Monde. Alors, vu le nombre de participants, à un moment, ça devient grave. Et pourtant, ils ont réussi, eux, grâce à leur jeunesse, à retrouver un nouveau souffle. Au début, Koeman aussi, il était montré du doigt, en se disant, tiens, c'est pas terrible, ça marche pas. Bon, faut laisser un petit peu de temps. C'est pour ça que je disais pour l'eau, faut laisser le temps avec ces jeunes. Et ben là, de la même manière, il a réussi à retrouver quelque chose, un enthousiasme, et puis une qualité technique contre l'équipe de France, ça a été intéressant. Et ce qu'avait dit, dernière chose, Koeman, et c'était pas bête finalement, parce qu'on l'a vu sur les deux matchs, il avait dit, l'équipe de France, finalement, c'est un match plus facile pour nous que l'équipe d'Allemagne, effectivement. Parce que l'équipe d'Allemagne attaque, et là, eux, ils se retrouvent aussi un peu en difficulté, parce que sur les phases de récupération, ils sont parfois un peu plus dans le dur qu'avec contre une équipe qui joue plus bas.
Hugo ?
Oui, juste, je jette un coup d'œil aux statistiques de la rencontre d'hier. Alors, les statistiques, elles disent des choses, elles disent pas tout.
Pas tout !
Évidemment,
pas tout !
Il n'empêche qu'au niveau des statistiques, on peut pas franchement parler d'une démonstration de l'Allemagne. Les Pays-Bas sont en tête en termes de possession de balles. Les tirs, bon, il y en a 8 pour les Pays-Bas, 13, donc un peu plus pour l'Allemagne, mais au niveau des tirs cadrés, c'est quasi la même chose. Plus de passes réussies du côté des Pays-Bas, donc on peut pas exactement parler d'un, en tout cas, du point de vue des statistiques, d'un hold-up. Hein.
C'est ce que disait Koeman, c'est-à-dire qu'eux, ils veulent aussi la balle, ben, comme les Allemands, à un moment, la voulaient.
Alors, c'est le moment, donc, de, comme on le disait, de faire le bilan, puisqu'on arrive à la fin de cette phase de groupe. La composition du dernier carré, qu'on va retrouver donc au début du mois de juin au Portugal pour cette finale à 4. Eh bien, les Pays-Bas seront le dernier, le seul représentant. Je vais remettre tout ça dans l'ordre. Le seul pays dans ce dernier carré à ne pas avoir participé à la dernière Coupe du Monde. Ça. Sinon, on retrouvera l'Angleterre, la Suisse et le Portugal. Alors, dans la mesure où on est à 4 mois de la fin de la Coupe du Monde, il s'est écoulé 4 mois entre les deux. Est-ce que c'est pertinent pour vous de rapprocher la compo des deux carrés, surtout puisque la Coupe du Monde s'était terminée avec un triomphe de l'Europe, hein, qui était présente, qui avait fait 100% des demi-finalistes. La France y était, elle est absente ici dans cette Ligue des Nations. La Croatie y était absente aussi. La Belgique a aussi été éliminée de cette Ligue des Nations. L'Angleterre seule rescapée. Est-ce que il y a un rapprochement à faire ou selon vous ce sont deux choses totalement différentes et il n'y a aucun enseignement à en tirer?
C'est surtout là où on comprend peut-être que la Coupe du Monde, comme un Euro d'ailleurs, c'est un moment ponctuel en fait. C'est peut-être un moment T où vous dites que les équipes doivent être prêtes au final pour ce moment, pour ce mois potentiel, ce mois et demi, ça dépend la durée des compétitions. Et après, il y a un relâchement. En tout cas, il y a d'autres équipes qui sont pas si loin que ça. L'Angleterre a certes été demi-finaliste, mais était à ça au final d'atteindre la finale. D'autres équipes également étaient à ça. Donc au final, moi, ça me démontre surtout que le Portugal, la Suisse, l'Angleterre sont très proches en fait de la Croatie, de ces équipes qui étaient en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc je vois plutôt un top 8 qu'un top 4 et un top 4 en fait.
Mm-hmm. Et de toute façon, une Coupe du Monde, ça se joue sur rien. Faut jamais l'oublier. Si vous regardez le parcours de l'équipe de France, ça se joue sur pas grand chose. Le parcours de l'équipe d'Angleterre, on en parlait, mais même les Croates, et puis on voit les Russes, ils sont éliminés en quart de finale, ils peuvent même aller plus loin. L'Angleterre se retrouve là en demi-finale sans avoir pas fait des grands matchs non plus. Donc c'est un moment particulier où il y a une forme de concentration générale d'un groupe et on peut aller au bout avec cet état d'esprit groupe. Quand vous revenez tous les deux mois ou tous les mois et demi, vous revenez une semaine, vous jouez un match, vous repartez sur un deuxième match, parfois en club, etc., etc. Pas la même concentration, pas tout à fait le même état d'esprit. Et ben il suffit de lâcher un petit peu et puis vous retrouvez dans le cas de la France. Mais ça veut quand quand même dire que, bon, déjà, toutes les grosses équipes étaient quand même présentes, parce que la Croatie, ça s'est joué à pas grand-chose contre l'Angleterre. La France, ça aussi à pas grand-chose, et ils font pas une mauvaise Ligue des Champions, la France, à part cette dernière défaite. Ligue des Nations, à part contre les Pays-Bas. Et puis la Belgique, c'est pareil, c'est sur un dernier match inattendu, pour le moins. Donc, ça prouve que l'écart est toujours infime. Mais surtout, moi, j'ai trouvé que cette Ligue des Nations a été super intéressante, parce que moi, au début, franchement, j'étais vraiment plus que sceptique, en me disant, c'est encore une compétition de plus, ça sert pas à grand-chose. Vous avez vu l'impact que ça a pu avoir sur les joueurs. Quand ils marquaient un but, on avait l'impression qu'ils gagnaient la Coupe du Monde, mais c'était un truc phénoménal. Donc, il y a eu un impact Ligue des Nations.
On va en parler de cet aspect-là. Hugo, peut-être une remarque sur les derniers carrés.
Oui, les derniers carrés donc vous avez donné la composition de la finale à 4 du Final Four, Christophe. Peut-être un mot sur les relégués.
Oui.
La Pologne et l'Islande, relégués dans la Ligue B. Les deux seules équipes à avoir été battues par des équipes africaines lors de la dernière Coupe du Monde. Ça, je voulais le signaler.
Par le Sénégal et par le Nigeria.
Quelles sont les deux autres équipes qui vont retrouver la Ligue B?
Eh bien,
l'Allemagne, qui décidément est en pleine chute, et la Croatie, quand même vice-championne du monde en titre, qui laisseront leur place à l'Ukraine, la Bosnie, le Danemark. Dernier billet se jouera entre la Russie et la Suède.
Voilà. Et donc, avec ces Portugais, avec ou sans Cristiano Ronaldo, il a le temps de revenir puisque c'est au mois de juin.
Interrogation. Oui. S'il veut revenir, surtout que c'est à la maison, je serais surpris qu'il revienne pas quand même. Hein. Le héros.
Et en sachant que le Portugal, il y a deux stades pour cette Ligue des Nations et ce Final Four, Guimarães et Porto. Le Portugal est assuré de jouer dans le grand stade de Porto. Ce serait presque symbolique de voir Cristiano Ronaldo gagner avec son équipe du Portugal dans ce stade de Porto, lui qui est un enfant du Sporting. Donc, tout est fait, j'ai presque envie de dire, comme Hervé le disait, pour qu'il revienne évidemment pour ce Final Four et qu'il soulève le trophée dans le stade de Porto. Ce serait beau pour lui.
Et s'il veut revenir, je serais quand même surpris qu'on le sélectionne pas.
Il y aura donc le Portugal, la Suisse, l'Angleterre et les Pays-Bas. Alors, qui contre qui, ça on le saura très bientôt, puisque le tirage au sort de cette finale à 4 est prévu le 3 décembre à Dublin, à l'occasion du comité exécutif de l'UEFA. Un comité exécutif qui va également officialiser le lancement d'une troisième Coupe d'Europe de club. Mais ça, on attend d'en reparler. Et maintenant, en route pour la CAN 2019.
Ah. Enfin, le vrai compète. La Ligue des Nations, c'est bien. Et voilà.
La vraie compète de week-end.
On a vécu un grand week-end d'éliminatoire, avec la cinquième journée avant-dernière. Et comme vous êtes tous des habitués de Radio Foot, je ne vous rappelle pas qu'on a déjà abordé le sujet hier, qu'on a eu en direct Corentin Martins pour revenir sur la qualification historique de la Mauritanie pour sa toute première CAN. Je ne vous rappelle pas non plus qu'on a déjà commenté les qualifications du Maroc et de l'Algérie, ni qu'on s'est donné rendez-vous pour la suite. Eh bien, la suite, c'est maintenant. Alors, Hervé Penaud, d'abord, puisque vous étiez à Conakry.
Absolument.
Pour ce Guinée-Côte d'Ivoire, qui a fait un score de 1-0 et qui a qualifié les deux équipes, même si, en fait, dans le détail, la Guinée, au coup d'envoi, savait déjà qu'elle était qualifiée. Qu'est-ce que ça a donné, ce match ?
Eh ben c'était un match très intéressant, alors dans une ambiance incroyable, parce que alors c'est vrai qu'ils savaient qu'ils avaient gagné, mais il y avait une pression autour de l'équipe de Guinée, parce que la Côte d'Ivoire c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui quand vous êtes guinéen. Ils s'étaient imposés à l'aller et ils voulaient terminer premier du groupe, et premier du groupe, un match nul leur suffisait pour être premier du groupe, et ils ont marqué un but après d'entrée assez vite, et après les Ivoiriens ont égalisé. Les Guinéens ont fait, je trouve, une deuxième mi-temps de très bon niveau sur une pelouse, là faut le dire, à un moment c'est compliqué de jouer au football quand les conditions sont pas terribles. Quand une passe, la balle rebondit à 2m50. Mais j'ai trouvé une équipe de Guinée vraiment qui a su donner du rythme, notamment en deuxième période, une deuxième mi-temps de très très bon niveau, avec un milieu de terrain qui a pris vraiment l'avantage. Des attaquants, Sori Kaba, l'attaquant de pointe qui jouait le chez, a fait un gros match. Yatara sur le côté pareil. Et puis au milieu, vous avez quand même Naby Keita qui faisait son premier match, puisqu'il était simplement revenu sur le banc après sa blessure à Liverpool. Amadou Diawara, qui était attendu, et d'ailleurs, si vous aviez vu la ferveur, parce qu'ils ont eu un truc, les Guinéens, et ça, c'est, je trouvais ça vachement, vachement bien. C'est la première fois que je voyais ça. Ils présentent leurs joueurs à l'échauffement comme les joueurs en basket américain ou en foot américain.
Il y a toute une mise en scène.
Chacun arrive à son tour et va s'échauffer. Et ouais. Donc, il y a,
c'est pas mal.
Et donc, c'est incroyable parce qu'il y avait une ambiance phénoménale. Les gens sont restés trois quarts d'heure après le match. Le président Soiré avait prévu de faire un feu d'artifice juste après la qualification. Et ils ont débuté le feu d'artifice juste quasiment au coup de sifflet final. Donc, ça veut dire, il y avait une ambiance. Les gens sont restés trois quarts d'heure dans le stade. Quasiment plein. Mm-hmm. Mais moi, j'avais rarement vu ça. Une ambiance incroyable. Et vraiment, j'ai trouvé une équipe de Guinée. Il va falloir maintenant voir ce que ça va donner parce qu'ils ont utilisé évidemment beaucoup de nouveaux joueurs. Hein. C'est un effectif qui a changé. Paul Put qui a pris le pouvoir sur la sélection. Et il peut se passer quelque chose. C'est à suivre dans les mois à venir. Mais il y a un travail de fond qui a été fait entre Soiré, Amadou Diaby, le vice-président de la fédération. Essayer d'aller chercher des joueurs, comme l'ont fait d'autres sélections, qui pourraient apporter un plus à cette équipe nationale.
Salim?
Hervé, je voulais vous poser une question. Vous avez la chance donc d'être là-bas. Mm. Par rapport à des joueurs de première ligue, en fait, qui sont un peu plus observés, forcément. Naby Keita, vous l'avez dit, c'était son premier match parce que, en fait, ça fait plusieurs semaines qu'on l'attend à Liverpool. Alors, Fabinho l'a bien remplacé, très bien remplacé même au milieu de terrain. On se pose même des questions parce que Henderson étant légèrement blessé, Fabinho étant bon, voire même très bon, on se dit presque, ça va être compliqué peut-être pour Naby Keita pour récupérer sa place. Donc, c'est vrai que c'était observé. Et puis, de l'autre côté, Jean-Michel Seri, lui qui va retrouver Claudio Ranieri maintenant à Fulham. D'ailleurs, Claudio Ranieri, on se dit que ce type de joueur, ça peut vraiment lui plaire. On lui a connu N'Golo Kanté, etc. Donc, les deux joueurs, ils ont donné quoi?
Alors, Naby Keita, il a fait un match, je vais dire moyen plus. Hein, c'est-à-dire que il a pas été immense.
C'est un match de reprise. Hein,
mais c'est un match de reprise, c'est tout à fait normal sur un terrain difficile. Mais il a une qualité technique, une fluidité dans ses mouvements. Il est capable de choses que peu de joueurs sont capables de faire sur de tels terrains en plus. Mm-hmm. Et je pense qu'il va le démontrer à Liverpool assez vite. Il l'avait fait en début de saison hein, quand il a été titularisé. Tout le monde se disait avec quel joueur. Alors après, il avait quelques petits problèmes de positionnement, de placement, connaître ses coéquipiers. Enfin, c'est la moindre des choses pour un joueur qui arrive surtout dans le cœur du jeu comme ça. Mais bon, il a eu deux trois accélération, il a fait deux trois choses. Je peux vous dire qu'à un moment, ça a mis le feu à toute la défense ivoirienne et les gars étaient un petit peu perdus sur ses accélérations et sa manière, vous savez, de casser les lignes par le dribble ou parfois par la passe. C'est très très intéressante. Seri marque un but, donc ça c'est important. Hein, c'est lui qui égalise. Mais le milieu de terrain ivoirien a été quand même assez dominé. On les a pas vus du tout face à ces Guinéens. Donc on peut pas dire qu'il ait fait un grand grand match. Mais pareil, contexte compliqué. C'était pas facile non plus pour eux. Et puis au bout d'un moment, quand ils ont vu le 1-1, les Ivoiriens, ils se sont dit, tout est bénef, on terminé, on en reste là, parce qu'eux, ils savaient qu'ils se qualifiaient avec ce match nul, alors que de toute façon, les Guinéens étaient qualifiés, même s'ils perdaient. Donc, c'était pas tout à fait le même état.
Alors, on va entendre une réaction d'un des protagonistes ivoiriens de ce match. C'est Serge Aurier qui est au micro de Tiernoya Diallo.
On est content, comme j'ai dit. On revient de loin. C'est vrai qu'on a eu du mal à mettre ce groupe en place. On l'avait déjà, mais bon, c'est une équipe jeune qui a besoin de s'affirmer. Et petit à petit, on est en train de prendre des points. On est en train de se... Par exemple, là, voilà, au début, personne ne croyait qu'on aurait pu faire des matchs comme en Centrafrique, des matchs difficiles où on a pris un point ici aussi. Même si je pense qu'on aurait pu espérer mieux au vu des occasions qu'on a eues. Mais on est content de petit à petit redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Et puis, on est en train de guérir petit à petit, donc c'est bien.
Serge Aurier, capitaine, passeur décisif aussi, comme vous le rappeliez les uns les autres, sur ce but ivoirien qui envoie donc la Côte d'Ivoire à la CAN, elle qui a été sortie au premier tour de la dernière CAN en 2017. Voilà, il disait, ça va de mieux en mieux, quoi, en gros, hein, Hugo, pour cette équipe ivoirienne qui, comme disait Serge Aurier, revient de loin.
Revient en tout cas d'une défaite, ouais, pour inaugurer cette phase éliminatoire de la CAN. Une défaite face à la Guinée justement, c'était en Côte d'Ivoire en plus,
à Boaké,
défaite 3-2. À l'époque c'était l'ère Marc Wilmots, la funeste ère Marc Wilmots, tant elle a été catastrophique sur le plan des résultats. J'ai rien contre lui, mais c'est la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que on parlera du Mali, un peu comme pour le Mali, c'est un local, entre guillemets, qui a pris, parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres solutions, qui a pris les rênes de cette sélection, Ibrahim Camara, et pour l'instant ça se passe très bien, en tout cas sur le plan des éliminatoires de cette CAN, si on s'arrête là, il est invaincu, Ibrahim Camara, et il fait un bon travail avec Kolo Touré à ses côtés pour redonner un semblant de cohérence à des éléphants qui étaient un peu perdus.
Oui, mais alors moi je trouve, bon, ils étaient un peu perdus, c'est vrai, donc fallait retrouver un lien, un fil directeur, mais enfin ça reste une grosse équipe sur le papier. C'est-à-dire en Afrique, une équipe capable d'aligner de tels joueurs, c'est quand même de très très haut niveau. Là devant, vous aviez quand même Nicolas Pépé, qui est aujourd'hui un des joueurs forts et qui est regardé par les plus grands clubs, qui est par les plus grands clubs. Vous avez Gradel qui connaît le football africain et qui fait des très bonnes performances aussi avec Toulouse.
Oui, mais les résultats étaient très mauvais.
Oui, les résultats n'étaient pas là. C'est-à-dire que pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé le lien entre tous ces joueurs. Et il y a des joueurs qui sont bons, qui sont très bons individuellement, mais collectivement, ça manque encore à l'image de ce match contre la Guinée. Parce que je pense que les Guinéens ont quand même été plus forts sur l'ensemble du match que les Ivoiriens. Parce qu'on a eu l'impression d'une équipe qui joue un peu en sénateur. Tranquillement, sans prendre beaucoup de risques. Et le potentiel de cette équipe, à mon avis, est beaucoup plus fort que ce qu'on a vu là.
Bien sûr. Alors, le potentiel, évidemment, qui est plus fort. Les noms ont été évoqués par Hervé. Après, déjà, il y a une base. Vu ce qui s'est passé avant avec Wilmot, il y avait déjà un premier objectif, celui de se qualifier. Alors, la manière n'est pas encore là, c'est un fait. Mais au final, il y a des choses qui ont pu être faites. Déjà, de se qualifier ainsi, oui, c'est déjà bien. Une bonne chose et c'est une première étape, on va dire, pour passer le cut petit à petit.
Alors, moi, juste une interrogation sur cette équipe de Côte d'Ivoire. Quid de Gervinho? Parce que Gervinho, il n'a pas du tout abandonné l'idée de
venir. Il n'a pas abdiqué. Non, loin de là.
Et Gervinho à Parme? C'est quand même très fort. Et Gervinho en Afrique, c'est un monstre. C'est-à-dire que c'est l'un pour moi, ça fait quand même des années que je suis le football africain et le football ivoirien. Si vous prenez sur les 15 dernières années, je le mettrais quasiment comme le numéro 1 des Ivoiriens.
Mais, bon, le brassard est sur le bras de Serge Aurier et le brassard.
C'est une guerre.
Est un objet de conflit. Hervé, c'est fort quand même de dire ça parce qu'il y a eu des Drogba, des Yaya Touré, des grands joueurs. Et vous dites tout simplement qu'il est quasiment au même niveau, voire devant.
Ah oui, parce que je trouve qu'il a toujours été impactant sur toutes les compétitions qu'on a pu voir de la Côte d'Ivoire. Tous les matchs important, il a toujours été là et ça a été un joueur qui a fait énormément pour cette équipe. Peut-être aussi parce qu'il y avait Drogba, parce que ça permet aussi de se libérer. Hein.
Alors, le classement de ce groupe H, Hugo, la Guinée est première pour l'instant, avant la dernière journée. D'ailleurs, elle le restera, hein, puisque même si la Côte d'Ivoire l'a rejoint en nombre de points, eh bien, le goal average particulier militera en faveur de la Guinée.
Parce qu'il y a eu une victoire de la Côte d'Ivoire de la Guinée en Côte d'Ivoire.
À laquelle on faisait allusion tout à l'heure. Guinée-Côte d'Ivoire qualifiée, et derrière, c'est un peu juste pour la Centrafrique.
C'est un peu juste pour la Centrafrique qui, néanmoins, en cas de succès lors du prochain match, pourra rejoindre au nombre de points la Côte d'Ivoire. La différence de but particulière, en tout cas les confrontations particulières font qu'il est impossible pour la Centrafrique de dépasser la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu une défaite en Côte d'Ivoire 4-0 lors de la précédente journée. Néanmoins, ce serait sur le plan symbolique le signe que la Centrafrique n'aurait pas fait une si mauvaise campagne éliminatoire. On est dans un pays qui a pas l'habitude exactement de voguer dans les mêmes eaux que la Côte d'Ivoire, donc ça aurait quand même un sens. On se rappelle que lors de la précédente campagne éliminatoire, pour la précédente CAN, celle de 2017, Centrafrique avait tenu tête, alors c'est peut-être un peu fort, mais avait presque fait jeu égal avec la République démocratique du Congo, qui était à l'époque l'un des favoris pour la CAN. Il y avait eu entre-temps une piteuse élimination au premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, bon ça nous renvoie à octobre 2015, mais c'est peut-être le signe que la Centrafrique est une équipe qui, au fur et à mesure, se construit, avec notamment l'apport de Geoffrey Kondogbia, c'est pas rien.
Voilà, oui, c'est important pour eux, c'est vraiment un élément majeur et espérons le fédérateur pour cette équipe de Centrafrique.
Et le Rwanda ferme la marche dans ce groupe avec pour l'instant deux petits points après cinq journées. On va sauter directement au groupe C avec un autre qualifié, c'est le Mali. Le Mali qui jouait à Libreville face au Gabon. Victoire 1-0 pour le Mali sur un but signé Moussa Doumbia et un centre venu des pieds de Moussa Djenepo.
On savait que ça allait être un match très difficile. Depuis le début de la préparation, on s'est dit qu'on allait venir chercher la qualification ici.
Attends. C'est bon déjà ! Vive le Mali !
Qu'est-ce qui a permis au Mali de faire la différence ?
La mentalité, parce qu'on est resté serein, on est resté ensemble, soudés, et voilà, c'est ce qui a apporté.
Les absents du côté gabonais, ça vous a favorisé ?
Pas dire ça parce que c'est pas la première fois qu'on gagne contre Gabon, donc on peut pas dire ça, non.
Oui, on peut pas dire ça. C'est la réponse à la question claire de Djenepo
Les absences, c'est quand même Aubameyang.
Oui, et Lemina. Oui, Lemina, Aubameyang. Aubameyang encore absent, mais bon, il avait prévenu qu'il était blessé.
Bref, donc il n'était pas là en tout cas.
En tout cas, prévenu qu'il n'était pas là.
D'après lui, son médecin a envoyé un courrier à la fédération qui a un peu tardé.
Écoutez, on verra si ce week-end il est blessé ou pas avec Arsenal.
J'espère que ça sera de retour pour Arsenal.
Voilà.
Eh bien, on verra. En tout cas, le Mali est pour l'instant à la tête de 11 points. 11 points en 5 matchs, c'est tout à fait respectable.
Ah, le Mali.
En tout cas, ça suffit pour être premier.
Ah, ça suffit pour être premier. Et non, mais un bon match du Mali. Vraiment, ils ont techniquement, ils ont été très justes. Enfin, ils ont bien joué. Alors, bien sûr, ils ont raté beaucoup d'occasions. Hein. Ils auraient pu gagner assez facilement ce match-là. Mais c'est une équipe où il y a pas mal de jeunes qui sont intéressants et quelques anciens, enfin, des Koulibaly derrière, des joueurs qui sont costauds, solides, qui connaissent un peu le haut niveau africain. Et puis un Marega qui prend du poids de plus en plus. Hein, le joueur de Porto qui fait déjà une très bonne saison à Porto. Et puis là, c'est un joueur cadre. Donc c'est un bon amalgame. Alors, il manquait du monde chez nos amis gabonais et il manquait aussi du monde chez nos amis maliens parce que Bissouma n'était pas là et c'est un joueur cadre de cet effectif.
Hugo ?
Oui, je voulais rendre hommage, tout comme j'ai rendu hommage tout à l'heure à Monsieur Camara, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Je voulais rendre hommage au sélectionneur du Mali, qui était lui aussi intérimaire il y a peu, Mohamed Magasouba, ancien directeur technique national. Là encore, une solution interne. Et là encore, ça marche plutôt bien avec une invincibilité, en tout cas dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN.
Alors dans ce groupe, le Mali y est, le Soudan du Sud est éliminé, zéro point quand même. Et ça va se jouer le dernier ticket entre les deux équipes du milieu, Hugo.
Le Burundi et le Gabon, il va falloir gagner au Burundi pour les Gabonais. Le Burundi, simplement, alors certes, le palmarès, il n'est pas folichon, une seule participation au CHAN, aucune à la CAN. Néanmoins, le Burundi est invaincu dans ses éliminatoires. Il en a passé 5 au Soudan du Sud à l'extérieur ce vendredi. Et il pourra compter sur le co-meilleur buteur de ces éliminatoires de la CAN, Fiston Abdulrazak, qui a inscrit un quadruplé
grâce à un match, quand même.
Ce vendredi.
Surtout un match, il a aidé.
Et à Berahino, l'ancien international espoir anglais, passe décisif pour Salim.
C'est ça. Et première sélection pour lui, hein, face au Soudan du Sud, et premier but pour Berahino. Lui qui, à la base, devait être en sélection anglaise, on le voyait aller très très loin, mais une dépression ne l'a pas forcément aidé, puis un transfert avorté à Tottenham également. Conséquence, il est allé à Stoke pendant 2 ans, quasiment il n'a pas marqué un but. On se disait qu'il était au fond du trou. Finalement, il est revenu en seconde division, il a recommencé à marquer, et puis l'appel du Burundi l'a aidé, on a envie de dire, de ses origines, et au final, il a réussi à marquer. Il renaît et il permet au Burundi peut-être d'établir un exploit, parce que ce sera un exploit évidemment de réussir à se qualifier, notamment devant le Gabon pour la prochaine CAN.
Dans le groupe E, eh bien, l'Afrique du Sud recevait le Nigeria. Le Nigeria, c'était le 5e mondialiste, pas encore qualifié. Il a réussi à gagner sa place à la CAN 2019 à la faveur de ce match nul, un but partout obtenu en terre sud-africaine. Et Garnet Rohr, le sélectionneur des Super Eagles, a répondu à quelques questions de notre correspondant Noé Hochet-Baudin.
C'est une équipe très très jeune et je pense qu'elle a fait une bonne Coupe du Monde. Ça nous donne un peu de confiance, ça nous donne aussi un peu d'expérience. Dans 7 mois, on en aura encore plus, même s'il n'y a pas beaucoup de matchs, parce qu'il reste maintenant un match en mars seulement. Donc on va essayer de suivre les joueurs. On a un match amical mardi au Nigeria contre Ouganda. Je pourrais voir des joueurs qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, mais quand on a une équipe jeune comme ça qui est capable de se qualifier dans un groupe difficile, parce que la Libye a aussi une bonne équipe, et les 6 points qu'on a fait contre la Libye étaient vraiment très précieux. Et on peut être optimiste pour la CAN.
Voilà, le Nigeria qui va revenir à la CAN.
Oui.
Puisque les deux dernières...
Son dernier match en CAN, c'était une finale gagnée, tout simplement.
C'est pas mal.
Pour le Nigeria. Ouais.
C'est souvent ça, le Nigeria.
C'est ça.
Quand ils sont là, attention.
Attention.
Mais ils n'y sont pas toujours.
Oui, mais c'est quand même étonnant qu'ils n'aient pas été les lors des deux dernières CAN, alors qu'ils ne sont jamais absents de la Coupe du Monde. C'est quand même...
C'est parce qu'il n'y avait pas Garnet Rohr à l'époque.
Mais l'Afrique Sud, attention.
Et on se retrouve justement dans un duel, justement, pour l'autre ticket de ce groupe E, Afrique du Sud et Libye. Et ça va se jouer sur un Libye-Afrique du Sud.
Libye-Afrique du Sud. Et les Libyens, donc, enfin, un gros résultat, enfin, sous Seychelles, mais enfin, 8 buts, c'est une chose. Là aussi, c'est pareil, ça gonfle les statistiques des buteurs.
Les Seychelles en ont pris 22.
C'est pas mal, c'est un bon ratio. Mais attention, ça va pas être facile pour les Sud-Africains. Alors là, pour le coup, ils sont bien, parce qu'eux, ils sont habitués à rater aussi les CAN. Parce qu'on les voit rarement, mais on pensait quand même qu'une CAN à 24. Pour moi, c'est le plus gros désastre du foot africain. C'est l'Afrique du Sud. Parce que je pense qu'ils ont tout pour réussir. Il y a des terrains, de l'argent, des clubs, etc., etc. Et au final, ils ne font quasiment rien. Alors moi, c'est toujours un mystère. J'ai du mal à me l'expliquer. Je dis, mais comment c'est possible avec des clubs de cette envergure-là, d'avoir aucun résultat aussi bien en club. Quand je dis aucun résultat, bien sûr qu'ils, parfois, ils peuvent aller demi-finale, finale, à une époque, s'ils avaient des gros clubs. Mais là, ils sont très loin en tout. Et ça, j'ai du mal à me l'expliquer. Et là, ils vont pas être favoris contre la Libye. Attention, la Libye, c'est une équipe toujours très, très difficile à jouer. Même si elle joue pas chez elle.
Oui, je voulais juste rendre un hommage, j'ai commencé à le faire, à Gernot Rohr.
C'est une obligation. Des hommages.
Mais oui, les hommages au coach qui travaille bien, il a restructuré cette équipe, il l'a emmené en Coupe du Monde, et la Coupe du Monde a été plutôt bonne, il a raison, il a rajeuni, il continue de rajeunir, là il fait sans Moses, il fait sans John Obi Mikel, et il continue à faire une bonne campagne éliminatoire pour la CAN. Gernot Rohr, il fait du bon boulot avec un autre grand d'Afrique qui allait mal, le Nigeria.
Vous voulez rendre hommage à Sébastien De Sabre, peut-être aussi? Sélectionneur de l'Ouganda.
Je peux pas rendre hommage à tout le monde, mais je lui rends hommage.
Ah si, il fait le bon boulot.
L'Ouganda a qualifié après sa victoire 1-0 samedi à domicile face au Cap-Vert. L'Ouganda qui se qualifie, Hervé, pour sa deuxième CAN consécutive.
Absolument.
Après une très longue absence.
Très longue absence et dans le sillage de leur gardien vedette, hein, Oyongo. C'est une équipe qui devient plus surprise, hein, finalement, parce que là ils font quand même des très très beaux matchs qualificatifs. Donc on va les attendre au Cameroun. Au Cameroun, on verra, donc on en saura un peu plus
à la CAN 2019 en tout cas.
À la CAN 2019 et donc c'est une équipe. Alors, je pense que ça manque un peu de talent quand même pour aller très très loin, mais ils ont gagné en régularité, et c'est vrai que ça a fait un très bon boulot depuis qu'il est arrivé, rien à dire, même si c'était du qualifié pour la dernière CAN.
Et derrière l'Ouganda qui compte 13 points en 5 matchs, eh bien les trois autres vont s'arranger entre eux pour le deuxième ticket, le Lesotho, la Tanzanie et le Cap Vert.
C'était pas un énorme groupe quand même s'il y avait Cap Vert. On sait jamais, avec le Cap Vert, on sait jamais. Tout est possible.
Et notamment pour les auditeurs qui aussi sont sur les réseaux sociaux, sur le Lesotho Tanzanie, il y a eu le raté de l'année quand même de la part du Lesotho. Un truc absolument incroyable avec un joueur qui arrive devant le gardien, qui réussit à mettre la pichenette, le ballon qui va sur le poteau, le ballon qui lui revient et il n'arrive pas à frapper. Tout cela sous un temps, sous une pluie battante. Enfin, c'est vraiment le raté de l'année sur les réseaux sociaux.
Le triple raté de l'année, effectivement.
Alors, en matière de pluie, il y a eu ce qu'il fallait.
Là, c'est un taux dessus, on est d'accord.
Il y a eu ce qu'il fallait.
C'est le présage pour les CAN en juin, ça.
Écoutez, je constate qu'on est en novembre et qu'il pleut aussi parfois très fort. Donc,
c'est vrai. Absolument.
À l'occasion de ce match Congo-RDC, racontez-nous, Hugo, vous qui avez suivi ça minute par minute, ce suspense, ce Congo-RDC qui était l'une des affiches du week-end et qui a failli ne pas aller à son terme.
Oui, j'ai failli prendre un avion pour Brazzaville histoire d'aller aider les pauvres ramasseurs de balles qui avaient été mobilisés pour enlever l'eau de la pelouse du stade avec des seaux d'eau. Vraiment, on a fait ce qu'on a pu pour que ce match reprenne. Après une quarantaine de minutes d'interruption de mémoire juste après la reprise, c'est plus en première mi-temps finalement que ça s'est joué ce match, hein, et c'est là qu'a été scellé le score final de un partout qui n'arrange personne puisque le Libéria dans le même temps a battu le Zimbabwe et est passé devant les deux Congos. La RDC est troisième, le Congo quatrième. Alors, petite consolation, si les deux équipes gagnent lors de la prochaine journée, les deux équipes iront ensemble à la CAN, mais pas simple.
C'est tendu.
Le Congo sera au Zimbabwe, qui est toujours leader de la poule, et la République démocratique du Congo recevra le Libéria.
Alors autant la RDC, on peut penser effectivement contre le Libéria, le Congo, ça va être quand même très dur, parce qu'ils n'ont rien montré depuis le début des éliminatoires, on attendait beaucoup plus de cette équipe-là, ils avaient quand même un match capital contre la RDC, alors dans des conditions effectivement très compliquées. Alors c'est difficile de juger après un match de ce calibre-là. Mais pour Valdo, déjà rappelez-vous le discours qu'il y avait eu avec le président de la fédération, le ministre, lors d'une réunion après le dernier match où ça avait été très tendu. En gros, on le mettait face à sa responsabilité. Puis là, il n'est pas intérêt à dire grand-chose. Oui. Là, je pense que pour lui, ça va être compliqué si en mars, il n'arrivait pas à se qualifier. Alors, ils ont eu une chance incroyable. Hein, c'est que le Libéria soit imposé comme ça. Ça a été quand même une surprise parce que personne ne s'attendait à cette victoire-là. Ça permet de se dire qu'il y a encore une chance. Donc, il faut la jouer à fond. Sait-on jamais. On a vu des surprises. J'ai noté, je crois, qu'il y a 8 victoires à l'extérieur là sur la journée, contre 10 victoires à domicile. Donc ça veut dire que on est capable maintenant de gagner en Afrique à l'extérieur, ce qui était pendant très longtemps, ce qui était très compliqué. Hein. On avait toujours la sensation que c'était difficile. Donc il y a une chance.
En tout cas, les deux Congos ont l'avantage d'avoir leur destin en main. Ce qui n'est pas le cas du Burkina Faso. Ce sera notre dernier point. Le Burkina Faso, même vainqueur, n'est pas sûr de passer. Hein, Hugo.
Oui, il faudrait qu'il y ait une victoire du Burkina, mais il faudrait que dans le même temps il y ait un mauvais résultat
de l'Angola,
soit un nul, soit une défaite au Botswana. Alors, vous allez me dire, on peut très bien aller perdre au Botswana. Le problème, c'est que personne ne perd face au Botswana dans cette campagne éliminatoire. Un point inscrit, un seul but marqué. C'était ce week-end en Mauritanie pour le Botswana. Donc, a priori, on est assez pessimiste pour nos amis étalons qui restent sur 5 participations d'affilée et notamment une 3e place quand même. Et la finale en 2013.
Il va falloir et être bon et avoir aussi un petit coup de pouce du destin. Alors, pour être tout à fait complet, on souligne l'élimination de la Zambie, n'ira pas dans une CAN, même à 24. Championne d'Afrique il y a 6 ans, la Zambie est dans vraiment une très mauvaise passe. C'est la 2e CAN ratée de suite. Et puis, ce groupe F, où c'est ce qu'on appelle la bouteille à l'encre, puisque le Ghana est allé gagner en Éthiopie, certes 2-0 avec un doublé de Jordan Ayew. Mais on ne sait pas ce que la CAF va finir par décider concernant la Sierra Leone, qui est actuellement suspendue. Les matchs ont été annulés ou reportés, on ne sait pas bien, d'une journée sur l'autre. Et finalement, Hervé, on attend que la CAF nous fixe.
Ah j'aimerais bien savoir. Nous, on attend de savoir.
Qu'est-ce qu'on
exactement.
Fait
ouais, exactement.
On garde les 3 équipes, on en qualifie une, on en qualifie 2, on fait quoi
C'est compliqué cette histoire, mais je pense qu'il faudrait prendre une décision assez vite.
À un moment donné, il faudra prendre des décisions. Alors, vous vous souvenez qu'à la veille de la dernière Coupe du Monde, le Maroc avait échoué dans sa quête d'organisation d'un mondial pour 2026, battu par la candidature américaine, mexicaine et canadienne. 5e échec. Très rapidement, les Marocains avaient dit « on ne baisse pas les bras, on y retourne et on va demander la Coupe du Monde 2030 ». Eh bien, dans ce dossier, ça bouge.
Uepa ! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás. Un, dos, tres. Un pasito pa' adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás.
Et il est malin, Laurent Salerno, vous allez comprendre. Le Maroc va y retourner, mais peut-être pas tout seul. Hier, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, était en visite à Rabat et il a proposé au Maroc une candidature commune à Un, Maroc, Dos, Espagne et Tres, Portugal pour 2030.
Il parle espagnol en plus.
Proposition faite au gouvernement, c'est mon chef qui m'oblige. Proposition faite au gouvernement, puis au roi Mohamed VI, qui selon le Premier ministre espagnol, donc a très bien accueilli cette proposition.
Je pense qu'il y a de nombreux messages autour de ce projet de candidature. Pour moi, le plus important, à part la passion pour le football que nous partageons entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal, est que ce serait une candidature entre deux continents. Ce serait la première fois qu'une candidature à l'Organisation du Mondial de Football serait présentée par deux continents, l'Europe et l'Afrique.
Très bonne idée.
C'est la solution, Hervé ?
Oui, c'est
pour le Maroc.
Oui, c'est la solution pour le Maroc. Il faut savoir qu'ils y avaient déjà pensé avec l'Espagne. Et je crois, d'après ce qu'on m'avait dit à l'époque, au tout début, c'est qu'on leur avait dit à la FIFA, on peut pas avoir deux continents qui organisent une même compétition comme ça. Alors, avec la FIFA, vous voyez qu'on peut tout faire, tout est possible. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça permettrait aussi d'avoir les voix des Européens, les voix africaines, certainement des voix asiatiques. Mais en face, il y a quand même aussi du beau monde. Mais franchement, ce serait super. Et pour le Maroc aussi, d'avoir la possibilité d'accueillir cette Coupe du Monde, ce serait génial. Le Maroc.
Et puis symboliquement quand même, l'Espagne et le Maroc,
côté.
Politiquement en plus, parfois on évoque certaines tensions, notamment avec les entités espagnoles qui sont au Maroc, Ceuta, Melilla. Au final, symboliquement, ces deux pays seraient proches encore une fois. On a parlé des deux continents, ce serait potentiellement une première sur deux continents. Et puis géographiquement parlant, au final,
côté,
la distance est limitée, donc ce serait que du bonus pour les pays et notamment pour le Maroc.
Alors le Maroc avait échoué dans sa quête de la Coupe du Monde 94, 98, 2006, 2010, 2026. Finalement, c'est pas aussi un aveu d'impuissance ?
Oui, mais c'est pas grave. Le but, c'est de savoir si vous allez l'avoir ou pas. Aujourd'hui, la Coupe du Monde à 48, faut pas rêver. Pour un seul pays, c'est très compliqué.
C'est quand même dommage de voir que l'Afrique peut pas s'associer avec l'Afrique et qu'il faille aller chercher de l'aide en Europe, non?
Oui, mais si vous pensez que vous avez plus de chances de le faire comme ça, autant le faire de la manière la plus intelligente possible. Il faut être tout à fait pragmatique. Aujourd'hui, il y a peu d'autres pays africains qui sont capables d'accueillir une Coupe du Monde. Faut quand même dire la vérité. Vous auriez certainement l'Afrique du Sud, il l'a déjà fait, mais vous allez pas faire une Coupe du Monde avec un pays au sud de l'Afrique, un pays au nord de l'Afrique. Alors il y aurait possibilité avec les pays maghrébins, mais après il y a d'autres problèmes qui peuvent être engendrés, extrasportifs, donc compliqués. Donc aujourd'hui, moi je trouve que c'est une entité qui peut tout à fait fonctionner.
À un moment donné, on parle de notions géographiques aussi, et donc d'infrastructures. Au final, des infrastructures infrastructure pardon pérenne, ben à côté du Maroc vous n'avez pas tant que ça, ou sinon vous avez des situations politiques qui sont très tendues. Au final le Maroc choisit le Portugal, l'Espagne. Pour le Portugal et l'Espagne ce serait aussi banco, tout le monde serait gagnant.
Et les autres choisissent le Maroc, tout le monde est content.
Et la réaction aujourd'hui de du Premier ministre portugais António Costa, ce serait bon pour le rapprochement entre les trois pays et ce serait aussi un défi. C'est vrai que
absolument.
Au niveau organisation c'est quand même pas simple, organiser à trois avec une mer entre les deux.
Mais là, ils font comment la prochaine en 2026? Ils sont bien trois aussi.
Mais il n'y a pas de mer. Voilà.
Oui, mais il n'y a pas de mer. Mais il y a des distances.
Mais il y a des distances bien plus importantes.
Bien plus importantes.
Voir un mur.
Oh, oui. Voir peut-être un mur. Le rapprochement des peuples, c'est bien aussi.
Alors, je le disais tout à l'heure, 2030, c'est encore loin. Et c'est vrai qu'on a déjà la candidature conjointe Argentine-Paraguay-Uruguay. Celle-là, elle est déjà dans les tuyaux. Donc, il y a une compétition qui s'annonce. Et puis, on dit aussi que la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie envisageraient également une candidature commune, d'ailleurs comme le Royaume-Uni et l'Irlande. Bref,
bon, surtout il y a du monde au
voilà.
Il va y avoir match. Merci à vous, messieurs, pour ce Radio Foot. Hugo, on vous retrouve ce mercredi, mais aux commandes.
Exactement, je ne suis pas venu pour rien aujourd'hui, je vous pousse
à la sortie. Vous serez encore meilleur demain. Allez, à demain.